Bonjour David, bonjour à tous. L'attente est insupportable pour la famille d'Erwan, disparue depuis 10 jours, et elle se dit choquée d'apprendre que la discothèque La Morinière va ouvrir le week-end prochain. La communauté de communes du Touarçay a récemment débattu de ses orientations budgétaires 2024. L'investissement cette année s'élève à 3 millions d'euros. Les CM1 et CM2 de l'école Saint-Laurent de la Chapelle Saint-Laurent ont participé en fin de semaine dernière à une opération de plantation d'arbres et de haies sous l'égide de l'association Bocage Pays Branché. À l'occasion de ces vacances d'hiver, les musées de l'agglo de Bé sont bien entendu ouverts, avec notamment des animations pour les enfants. Elle s'appelle Isabelle Rodriguez. Cette Niortaise, adepte notamment de course à pied, participera à la 16e édition des 100 km du désert du Namib. Ce sera du 27 février au 1er mars. Quant à la météo, éclaircies et passages nuageux se succéderont cet après-midi. Le mystère reste entier autour d'Erwan, ce jeune homme de 18 ans disparu, je vous le rappelle, depuis une dizaine de jours maintenant. Il n'a plus été vu depuis cette soirée du 10 février passée à la discothèque La Morinière, boîte de nuit, qui a indiqué qu'elle allait rouvrir le week-end prochain, ce qui indigne la famille d'Erwan à l'image de sa belle-mère, Karine Blé.
Très sincèrement, on a été choqués parce que d'abord l'enquête est en cours, voilà, les éléments ne sont pas encore... acté, il y a des choses, il y a des personnes à entendre, il y a des choses encore à vérifier très certainement, et qu'on puisse rouvrir cet établissement qui est quand même voilà, le point de départ de l'affaire nous paraît incohérent. Et d'autant plus que y a des éléments de sécurité qui manquent et qui n'ont toujours pas été mis en place. Et on n'a pas envie qu'un autre drame se passe.
Vous pensez à quoi sur les éléments de sécurité ?
Par exemple, on va penser au fait de protéger l'accès à la rivière, par exemple, qui touche le parking. Pour nous, c'est le béaba, quoi, en termes de sécurité.
La famille d'Erwan a remué sel et terre depuis une semaine à la recherche du moindre indice, en explorant toutes les pistes, certaines étant parfois fantaisistes.
Sur l'aspect recherche sur le terrain, on est un petit peu désœuvré parce que c'est vrai que là, actuellement, on a quand même quadrillé un secteur immense. On a suivi même des pistes qui étaient un peu parfois farfelues, mais tant pis, on est allé sur le terrain quand même. Aujourd'hui, on va dire que sur le terrain, on n'a pas plus grand-chose à y faire, malheureusement. À notre grand désarroi, d'ailleurs.
C'est en cela que c'est difficile de ne pas partir sur de fausses pistes, de ne pas partir dans tous les sens. C'est là la difficulté ?
C'est ça. On a suivi énormément de pistes qui n'ont mené absolument nulle part. C'est vrai que dans ce genre de situation, malheureusement, on prend tout ce qu'on peut nous apporter. On est aussi confronté à des sollicitations de personnes, alors dans la majorité des cas bienveillantes, hein, qui veulent nous aider comme elles le peuvent. Donc on a suivi beaucoup de pistes, de médiums, de voyants, de tout ce qu'on veut. On a eu des situations où différentes personnes avaient des informations qui pouvaient se recouper. Donc on a tenté quand même, même si on se dit très bien qu'il y avait quand même peu de chance. Et je pense qu'on veut aussi sortir de ce côté un peu malsain pour nous, un peu difficile pour nous, d'avoir sans cesse des espoirs qui sont déçus et qui sont difficiles à gérer après.
Les recherches sur le terrain se poursuivent, mais avec un dispositif de nouveau allégé. La semaine dernière, la gendarmerie avait déployé de grands moyens, salués d'ailleurs par la famille d'Erwan.
À aucun moment on peut critiquer le travail qui a été fait par la gendarmerie, bien au contraire. Ils ont mis en place des moyens techniques colossaux, que ce soit sur terre, dans les airs, dans l'eau, vraiment tout a été mobilisé. Effectivement, les effectifs sur le terrain se sont considérablement réduits aujourd'hui. Néanmoins, ils sont venus gonfler les moyens humains plus sur un volet judiciaire. C'est un travail de fourmi d'analyser toutes les données informatiques, toutes les données numériques. Donc une partie des effectifs est maintenant mobilisée dans ce sens-là, donc c'est hyper important.
Karine Blé, belle-mère d'Erwan, qui confiait donc à Fabien Gazot ce sentiment d'impuissance face à cette disparition qui reste un mystère depuis maintenant une dizaine de jours. Ce matin, le parquet de Nyon a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour disparition inquiétante. Par conséquent, les investigations sont désormais dirigées par le juge d'instruction de Nyon. Un an de prison ferme prononcé par le tribunal niortais. Celui-ci avait en effet jugé hier un jeune majeur qui a été reconnu coupable d'avoir incendié ou endommagé à Thouars pas moins de 25 véhicules dans la nuit du 26 au 27 décembre dernier. S'il a tenté de minimiser sa participation dans ces incendies volontaires en indiquant ne pas avoir agi seul, il n'a pas été entendu et donc été condamné à 24 mois de prison, dont 12 fermes. Le chômage recule en Nouvelle-Aquitaine malgré la crise sanitaire et ses conséquences qui ont fortement perturbé l'économie française. Le marché du travail est résilient en Nouvelle-Aquitaine. Dans la région, le taux de chômage moyen en 2022 s'est élevé à 6,5%, un niveau légèrement inférieur à celui de la moyenne française. Depuis 2018, il a diminué de quasiment 2 points. Toutes les régions de France métropolitaine enregistrent une baisse, mais d'ampleur variable. La Nouvelle-Aquitaine se positionne ainsi au 6e rang d'un classement où la Bretagne est la moins touchée par le chômage, 5,8%, à l'inverse des Hauts-de-Seine, 8,8%. Nous pouvons regretter la dissolution de l'association La Maison du Patrimoine, mais il est injuste de faire porter la responsabilité de la fermeture de la structure à la collectivité départementale. Le département n'est ni la tutelle ni le gestionnaire de ce site, a déclaré Coralie Desnoux, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres, suite aux différentes déclarations accusant la collectivité de ne pas verser les subventions promises à l'association. La communauté de communes du Thouarsé, entre rigueur et projet, l'équilibre financier est un pari à réussir tous les ans pour la communauté de communes, comme pour toutes les collectivités d'ailleurs. C'est l'objet de la feuille de route que constitue le rapport des orientations budgétaires pour 2024. Elle est plutôt rassurante, comme l'explique d'une voix mesurée l'élu chargé du budget à la communauté de communes du Thouarsé, Roland Morisseau, au micro-colline de Dominique Hérault, avec une zone rouge à éviter, que le désendettement ne dépasse pas 8 ans.
C'est un budget qui est plutôt de l'ordre rassurant. Les finances par rapport à ça sont relativement saines et j'irai les perspectives 2024 prévoient une certaine stabilité et une capacité de désendettement inférieure à 8 ans. Nous sommes à 3 ans fin 2023 et 5 ans, j'irai en fin 2024.
Mais quand même près de 8 en 2027.
Oui, dans la mesure où après donc il y a toujours une marge de prudence qui est inscrite dans les prévisions, à la fois avec des recettes non surévaluées et des dépenses qui sont avec une marge de sécurité. Dans les dépenses, bah, il y a toutes les dépenses de charges à caractère général. Hein. En premier lieu, les fluides. Après, bah, il y a toute la partie entretien des équipements, études. Donc voilà les deux gros points de dépenses de charges à caractère général. Les dépenses, bien sûr, après, de personnel. Et puis après, toutes nos contributions. Voilà les grandes lignes de ce qui, au total, arrive à 21 millions d'euros de dépenses.
Des dépenses totales de 21 millions d'euros, donc, vous l'avez entendu, marquées par un certain sens de la rigueur de gestion, comme en témoigne le plan de sobriété énergétique. Ainsi, l'an dernier, la communauté de communes du Thouarsé a diminué sa consommation d'électricité et de gaz d'un quart, soit une économie de 300 000 euros. Quant aux recettes, elles s'établissent à 23 millions, dont 14 millions de la fiscalité, 5 autres millions de la taxe d'habitation et 3 autres millions des entreprises. L'investissement s'élève à 3 millions d'euros pour 2024. Roland Morisseau.
Les grands projets, c'est le début des travaux de la médiathèque de Thouars. Un autre grand projet qui va voir le jour, c'est le nouveau pôle santé à Argentan-Église qui va démarrer pour la fin de l'année et qui s'étalera aussi pour 2025. Puis dans des projets d'aménagement de zones d'activité, d'aménagement d'un télérelais, d'installation d'ombrières, qui vont aussi voir le jour en 2024, ainsi que le démarrage de la micro-crèche de Louzy.
La communauté de communes du Thouarsé a choisi de figer ses taux d'imposition en 2024, mais cela ne signifie pas pour autant que les impôts locaux resteront stables, puisque c'est l'État qui augmentera les bases de 3,9%, base qu'il avait relevée de 7% l'an dernier. En clair, le contribuable paiera davantage. Reportage signé Dominique Hérault.
On continue sur le rôle des arbres d'air. À quoi ça va servir? À mieux respirer. Est-ce que c'est clair pour vous, ça? Vous comprenez tous cette notion de mieux respirer?
Oui.
Les arbres vont fabriquer de l'oxygène quand ils font la photosynthèse, d'accord? Quand ils fabriquent de l'énergie. C'est une notion un peu compliquée, on pourra en reparler avec maîtresse tout à l'heure.
Alain Péridi, technicien agroforestier au sein de l'association Bocage Pays Branché. Ce dernier intervenait en fin de semaine dernière lors d'une plantation de haies et d'arbres sur les terres agricoles de Mathieu Olftoff, apiculteur et éleveur bovin à la Chapelle Saint-Laurent. Proposer une pédagogie active, solidaire et citoyenne qui invite les enfants à se connecter au vivant tout en devenant acteur du changement et des défis environnementaux. C'est bien l'objectif de l'opération qui a mobilisé vendredi dernier 54 enfants de CM1 et CM2 de l'école primaire privée Saint-Laurent. Leur enseignante Marie-Georges Savin et Patricia Malinge.
C'est très important de les impliquer parce que c'est les futures générations. D'impliquer des enfants dans un projet sur l'environnement, sur la protection de la biodiversité.
Lors du travail en amont, justement, est-ce que vous les avez sentis très impliqués, très intéressés? Est-ce qu'ils ont posé beaucoup de questions?
Alors, oui, ils sont très intéressés par la nature en général. Et puis, c'est vrai qu'on avait été déjà sensibilisés pourquoi planter des arbres. Donc, il y avait un intérêt par rapport à l'écologie. Et puis, actuellement, beaucoup en parlent. Donc, c'est d'actualité, en fait. Donc, ils sont déjà très partants pour faire ce genre d'activité.
Est-ce que l'on dire que dans quelques années, ils pourront revenir ici puis voir leur réalisation poussée?
Ah ben, tout à fait, ça ce serait super pour eux. Cette sensibilité qu'ils peuvent avoir maintenant, ils l'auront plus tard. Je crois que c'est une belle approche de la nature et puis pour être de futurs citoyens.
Sensibiliser les enfants aux défis de l'agriculture, aux vertus de l'arbre hors la forêt, le rôle des haies, de la biodiversité, c'est bien tout l'intérêt de cette action et les enfants l'ont bien compris, à l'image de Flavie en classe de CM1 et Antonin qui lui est en CM2.
On plante des haies et des arbres pour qu'ils poussent quand on sera plus grand et qu'on pourra venir les voir.
En quoi c'est important?
Pour mieux respirer et équilibrer l'environnement de la planète.
Comment on fait pour planter?
On va chercher un arbre, on creuse un trou, on le trempe dans un liquide pour que il pousse bien et on le renterre.
Et c'est quoi ce liquide?
C'est un mélange avec de l'eau, de la terre et de la bouse de vache.
Est-ce que tu en as parlé à tes parents de ce que tu allais faire ce matin?
Oui. Et ils m'ont dit que ça allait être bien pour la nature et pour nous aussi.
Antonin et Flavie, deux des élèves de l'école Saint-Laurent de la Chapelle Saint-Laurent, y ont participé vendredi dernier à cette plantation d'arbres et de haies sur une parcelle d'un agriculteur chapelet. Les deux musées de l'agglomération du Bocage-Bressuire, le musée à Bressuire et l'abbaye à Mauléon proposent durant les vacances scolaires des animations gratuites. Des visites guidées sont en effet organisées, elles sont ouvertes à tous et durent une heure à partir de 15h30. Des ateliers de médiation sont aussi proposés. À Bressuire, les 7-9 ans sont invités à partir à la recherche du trésor de Maxime Grande ce mardi, mais également mardi prochain, le 27 février. Des ateliers artistiques sont également proposés les jeudis après-midi. À Mauléon, les ateliers du mercredi s'intéressent au travail du cuir. Les jeudis, eux, sont consacrés à l'expo de Steve Fanouillet, qui a placé son objectif dans son jardin. Il pratique en effet la macrophotographie, qui consiste à capter l'infiniment petit. Et sous son œil, les insectes sont magnifiés. Il avait d'ailleurs représenté sa collection l'été dernier au festival photographique de Montcoutan. Steve Fanouillet.
C'est vraiment aller chercher des détails qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'on ne peut pas voir, et là on les met en avant. Les insectes, on ne les voit pas, on ne les perçoit pas, tels qu'ils sont réellement, on ne peut pas les voir, on n'a pas cette perception-là. Et donc moi, ce que je viens mettre en avant, c'est leur beauté. Ils sont très beaux, on dirait presque des petits bijoux, avec des couleurs incroyables, des textures métallisées, irisées, des jolis contrastes, des jolies couleurs. On ne voit pas tout de suite à l'œil nu comme ça, et le travail, c'est de vraiment le mettre en avant, pour un peu changer le regard qu'on a sur les insectes. Parce que c'est vrai qu'ils ne jouissent pas d'une réputation très glamour, on va dire. Moi, je prends le contre-pied. Je fais le contre-pied et je dis, non, en fait, ils sont très beaux. Même au-delà de ça, leur apparence et aussi leur support. Donc, les fleurs, etc., qui nous amènent beaucoup de couleurs, des jeux de textures aussi. Et donc, avec tout ça, on arrive à faire des photos sympas, dynamiques et riches en détails, en couleurs. Pour dire que, à nos pieds, juste à côté de nous, on a une diversité incroyable. On ne le voit pas, on ne le perçoit pas, parce qu'on ne fait pas attention. Et donc là, c'est vraiment mettre en avant tout ce petit monde. Donc changer l'image qu'on a des insectes pour montrer vraiment leur beauté et rappeler que, quelque part, sans eux, on n'est pas grand-chose.
L'expo de Steve Fanouillet est visible au musée de l'abbaye de Mauléon jusqu'au 28 avril. Pendant ses vacances d'hiver, il est ouvert jusqu'au dimanche 10 mars. Les mercredis et vendredis de 10h à midi et de 14h à 18h. Les mardis, jeudis, samedi et dimanche de 14 à 18h. À Bressuire, le musée est ouvert de 14h30 à 18h. Du mardi 20 au vendredi 23 février et du 27 février au dimanche 3 mars. L'actualité sportive, Craig Randall sera-t-il encore Choleté? Rien n'est moins sûr selon nos informations. Son départ de Cholet Basket n'est pas encore acté, mais le club y travaille. Le shooter américain, qui ne fait pas l'unanimité dans le vestiaire en raison de son individualisme, est arrivé, rappelons-le, en décembre dernier. L'histoire n'aura donc été que de courte durée et CB a jusqu'au 29 février pour le trouver un remplaçant. D'ici là, au calendrier, Cholet Basket jouera Blois ce samedi en amical avant de retrouver la Betclic Elite le 3 mars face à Limoges. Une Niortaise au départ de la 16e édition des 100 km du désert du Namib. À 44 ans, Isabelle Rodriguez, assistante de direction au commissariat de police, passionnée de sport et notamment de course à pied. Elle a à son actif les marathons de Paris ou encore de Lisbonne, sans compter les nombreuses épreuves locales. Elle se lance donc un nouveau défi sportif, courir un ultra-trail dans ce désert côtier d'Afrique australe. Quelles sont ses motivations? C'est la première question que nous lui avons posée.
C'est le dépassement de soi-même, d'aller vraiment au bout de ses rêves en disant que tout est possible. C'est vraiment un challenge personnel. Je fais mon propre entraînement, je me connais. J'ai eu la chance de bénéficier d'un coach pendant un an. Après, bon, actuellement aussi, je fais partie d'un club de triathlon. Mais après, c'est moi, je m'auto-gère et je me connais. Donc, comme pour le marathon de Paris, je me suis entraînée toute seule, sans l'aide de personne.
Et selon vous, quelle sera la principale difficulté sur place lors de cette épreuve?
C'est d'enchaîner les courses en sur les 4 jours. Et ça, effectivement, et puis avec la température là-bas sur place, savoir comment mon corps va réagir. Après, effectivement, il y a une assistance technique et médicale qui est sur place. Mais c'est vraiment savoir comment mon corps va réagir avec la chaleur.
La Niortaise Isabelle Rodriguez, sa dernière qui n'a jamais mis les pieds en Afrique, participera donc aux 100 km du désert du Namib du 27 février au 1er mars. Au programme 15 km lors de la première étape, 21 la seconde, 42 km le troisième jour et enfin 26 km à couvrir lors de la dernière étape. Au-delà du défi sportif, c'est également une action humanitaire puisque Isabelle Rodriguez a décidé de venir en aide aux enfants d'une école de la capitale namibienne. Dans ce cadre, elle a récolté des dons de plusieurs partenaires et particuliers, crayons, cahiers de coloriage, vêtements, brosses à dents et autres sous-vêtements destinés à des jeunes filles de cette école, jeunes filles âgées de 3 à 10 ans, article qu'elle distribuera avant de prendre part à la course.